Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. L'Irak et ses alliés lancent la bataille de Mossoul, le principal fief de Daesh dans le pays. Les organisations humanitaires redoutent les conséquences pour les populations civiles. Nous ferons le point avec Oriane Verdier, l'envoyé spécial de RFI, et nous analyserons la situation avec notre invité Jean-François Daguzan de la Fondation pour la Recherche Stratégique. 21 ans après le massacre de Srebrenica, un Serbe prend la tête de la ville martyre. Les musulmans bosniaques contestent cette élection. Les explications de Laurent Rouy dans ce journal. François Hollande de retour à Florange pour expliquer aux salariés d'ArcelorMittal qu'il a tenu les promesses du candidat Hollande. Un message qui a bien du mal à passer. Nous verrons cela avec notre envoyé spécial Louise Baudet. La rédaction d'ITélé en grève contre l'arrivée de Jean-Marc Morandini, la chaîne info du groupe Canal+, est en crise depuis que Vincent Bolloré en est le patron. La bataille de Mossoul a donc officiellement commencé la nuit dernière lorsque le premier ministre irakien Haider al-Abadi a annoncé le lancement des opérations militaires. Pour l'Irak, il s'agit de reprendre à l'État islamique la deuxième ville du pays qu'il occupe depuis 2 ans. L'armée irakienne n'est pas seule dans cette bataille. Il y a aussi les Peshmerga kurdes, les milices chiites et les forces spéciales occidentales américaines pour l'essentiel. Ce soir, la coalition semble avoir progressé en direction de Mossoul, mais l'offensive inquiète les organisations humanitaires, car il y a encore dans la ville plus d'un million d'habitants. On retrouve à Erbil, dans le Kurdistan irakien, l'envoyé spécial de RFI, Oriane Verdier.
Cela pourrait être la plus importante et complexe opération humanitaire au monde, selon la coordinatrice de l'action humanitaire des Nations Unies en Irak. Les organisations internationales ont beaucoup de mal à se préparer. Elles manquent de financement, mais aussi de partenaires sur qui compter. Ces derniers jours, avant l'annonce officielle du début de l'offensive vers Mossoul, les plans et les acteurs de cette bataille ont changé régulièrement. Il y a 2 jours, un général Peshmerga m'expliquait qu'il ne savait toujours pas où seraient placés les centres de filtrage des déplacés, premier lieu d'accueil des familles fuyant l'organisation État islamique. À Khazel, par exemple, base Peshmerga depuis laquelle est partie la dernière offensive. Seulement 1 camp sur 3 est prêt à recevoir des familles. Pour l'heure, la stratégie favorisée par l'ONU est de demander à l'armée de conserver les familles le plus longtemps possible dans Mossoul et de ne les exfiltrer qu'en cas d'extrême urgence. Mais à l'intérieur même de la ville, selon un diplomate occidental, les risques encourus seront extrêmes au-dessus de l'échelle de Richter.
Oriane Verdier, envoyée spéciale de RFI en Irak. Invité de ce journal, Jean-François Daguzan, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Bonsoir.
Bonsoir.
Jean-François Daguzan, l'enjeu de cette bataille de Mossoul, c'est de porter un coup décisif à l'État islamique.
Oui, bien sûr, c'est un élément essentiel. Alors, il n'est pas sûr que la perte de Mossoul marquera la fin de l'État islamique, mais au plan symbolique, c'est bien entendu essentiel. C'est la plus grande ville sous leur contrôle. C'est celle qui a marqué le début de leur expansion fulgurante qui a suivi en Syrie, y compris d'ailleurs jusqu'à quelques kilomètres de Bagdad. C'est aussi la ville où le al-Baghdadi a déclaré le califat. De ce point de vue-là, c'est quelque chose d'extrêmement fort pour l'État islamique et sa perte représentera un élément central, même si apparemment la communication de Daesh a commencé à préparer les esprits à ce repli, entre guillemets, stratégique.
Oui, justement, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un repli de l'État islamique sur ses fiefs syriens et notamment Raqqa ?
Bien entendu, alors Raqqa sans doute, mais de toute façon, comme on a pu le remarquer par le passé, l'État islamique fonctionne par tache d'huile et va là où il ne trouve pas de résistance. La seule bataille qu'ils ont livrée et perdue, c'était Kobané, et on voit bien que chaque fois qu'ils ont fait des progressions, c'était sur du vide. Mossoul a été conquise quasiment sans coup férir, puisque l'armée irakienne a cédé la place quasiment sans combattre.
Et depuis, l'armée irakienne a-t-elle pu se reconstituer ?
Oui, alors c'est bien entendu une reconstitution de briques et de brocs. Vous avez les Peshmerga au nord qui sont rentrés d'ailleurs dans la lutte, dans la prise de Mossoul, en contrôlant les principales localités au nord pour empêcher justement le repli de Daesh vers la frontière turque. Vous avez l'armée irakienne reconstituée tant bien que mal, qui est désormais une petite réalité, et vous avez toutes les milices chiites de différentes obédiences qui viennent en appui. Alors tout cela d'ailleurs soutenu très fortement par les forces spéciales des différents pays alliés, et au premier chef la France, qui a quand même déployé son artillerie majeure, c'est-à-dire les 155 de campagne, qui sont une arme redoutable et qui vont venir aider à la prise de Mossoul.
Jean-François Daguzan, qui dirige cette coalition qui va tenter de reprendre Mossoul ? Les Irakiens, les Américains, les Kurdes ?
C'est une très bonne question. Je crois qu'il y a une apparence de direction qui est l'état-major de l'armée irakienne. Mais à la manœuvre, vous avez les États-Unis au premier chef qui sont là pour donner l'ordre de bataille et la tactique principale. Je dirais que c'est un peu en deuxième plan parce qu'il a fallu négocier quand même beaucoup pour les amener à sortir de leur territoire pour participer au combat. Les Kurdes sont plus à une position défensive dans cette affaire-là, et avec certainement des promesses à la clé puisqu'ils vont intervenir. Bien entendu, vous avez les Iraniens à travers les Pasdaran, les différents groupes, toutes ces unités finalement, peu ou prou sous le contrôle iranien, qui vont jouer un rôle significatif et dont il faut absolument tenir compte.
Alors Jean-François Daguzan, il y a un risque majeur pour les populations civiles de Mossoul, tout comme à Alep d'ailleurs. Justement, est-ce que les Russes ne vont pas exploiter la situation pour justifier leur propre bombardement ?
Mais non seulement ils risquent de le faire, mais ils l'ont déjà fait. Vladimir Poutine s'est exprimé tout récemment pour dire que justement le risque sur la population pesait autant à Mossoul qu'à Alep, une façon de renvoyer du berger à la bergère. Avec effectivement, une fois de plus, une prise en otage des populations civiles, puisqu'on pense qu'il y a entre 3000 et 9000 combattants effectifs de l'État islamique à Mossoul pour 1 million, 1,5 million d'habitants. S'enterrer et créer des victimes civiles, c'est évidemment quelque chose qui va participer de la communication de Daesh pour démontrer combien ces gens-là, c'est-à-dire les Irakiens et nous, sont des gens abominables qui massacrent les populations. Je pense qu'ils vont fondamentalement essayer de se servir de ça pour créer un phénomène de compassion à leur égard. Les populations sont dans une situation terrible, puisque évidemment, on va les empêcher de sortir les armes à la main côté Daesh, et donc elles risquent évidemment de se retrouver en grande difficulté, même si, je dirais, le niveau de déploiement des forces, notamment occidentales, qui vont soutenir l'offensive irakienne, est faite de capacités de très haute précision. Mais vous avez beau être précis, si les gens s'enterrent dans la population, évidemment, les dommages dits collatéraux risquent d'être réels.
Jean-François Daguzan de la Fondation pour la Recherche Stratégique, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Pendant ce temps-là, en Syrie, les bombardements russes continuent sur Alep. 12 personnes d'une même famille ont trouvé la mort aujourd'hui dans un quartier rebelle de la deuxième ville syrienne. Moscou promet une pause humanitaire de 8 heures jeudi à Alep. L'Union européenne condamne ces frappes, mais n'envisage pas pour autant de nouvelles sanctions contre la Russie. Srebrenica, ville martyre de Bosnie, a désormais un maire serbe. Mladen Grujicic a été déclaré vainqueur aujourd'hui de l'élection municipale du 2 octobre dernier, mais cette victoire est d'ores et déjà contesté par le maire sortant musulman Kamil Duraković. Une élection lourde de symboles dans une ville marquée par le massacre de juillet 1995. Plus de 8000 musulmans bosniaques avaient été tués par les forces serbes du général Mladic. Depuis 1999, Srebrenica était dirigée par des musulmans et le succès du candidat serbe pourrait bien raviver les tensions communautaires. Laurent Rouy nous appelle de Belgrade.
Mladen Grujicic, un enseignant de Srebrenica et candidat commun des partis serbes, est un inconnu en politique. À 34 ans, la seule fonction publique qu'il ait occupée est celle de responsable d'une association de victimes serbes de la guerre de Bosnie. Devenu maire de la seule commune de l'entité serbe de Bosnie, jusqu'à présent dirigée par un musulman bosniaque, reconnaissant l'existence du massacre de Srebrenica, mais refusant de le qualifier de génocide, Grujicic cristallise les critiques des associations de survivantes du massacre. Il affirme pourtant avoir le soutien d'une partie des musulmans bosniaques vivant à Srebrenica. La victoire de Grujicic marque une défaite symbolique énorme pour le principal parti des musulmans bosniaques, le SDA, au pouvoir au niveau national. La perte de Srebrenica déclenche une crise au sein du parti, les principaux cadres s'accusant mutuellement d'être responsables de la perte d'une ville symbole des crimes commis contre les musulmans. De son côté, Grujicic dénonce un système de détournement des aides à la reconstruction sous le règne du SDA. Il annonce aussi vouloir gouverner aussi bien pour les Serbes que pour les Bosniaques.
Laurent Rouy, notre correspondant à Belgrade. En Allemagne, deux personnes ont trouvé la mort aujourd'hui dans une usine BASF de Ludwigshafen. À l'origine du drame, une explosion suivie d'un incendie sur le site de l'entreprise chimique. Outre les deux décès, le dernier bilan fait état de deux disparus et six blessés graves. Les raisons de cette explosion sont pour le moment inconnues. 36 000 salariés travaillent pour BASF à Ludwigshafen, le plus ancien site industriel du groupe. François Hollande était à Florange aujourd'hui pour marteler un seul discours. Le président a tenu les promesses du candidat Hollande qui était venu sur le site d'ArcelorMittal lors de la campagne de 2012. Le site est toujours là et il n'y a pas eu de plan social. Il reste que les deux derniers au fourneau de Florange ont fermé en 2013. Alors bien sûr, les 629 salariés concernés ont été reclassés, mais beaucoup ne pardonnent pas à François Hollande sa politique industrielle. Le reportage de Louise Baudet.
Ni impuissance, ni trahison. Pendant 20 minutes, François Hollande a tenté de démonter le procès qui lui est fait. Ses engagements, il les a tenus, dit-il, renouant avec l'anaphore, cette figure de style qui fit son succès en 2012.
Florange, ce sont des engagements qui ont été pris et qui ont été respectés. Florange, ce sont des emplois qui ont été non seulement sauvegardés, mais créés. Florange, ce sont des investissements nouveaux qui ont été réalisés. Et Florange, pour ce qui me concerne, ce n'est pas un souvenir. C'est un avenir.
François Hollande qui balaie les critiques, notamment de son ancien ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg.
On avait proposé une nationalisation partielle, ce qui n'était pas dans mes engagements et qui n'aurait eu aucun impact, aucun effet. Nous devons ne pas vendre de l'illusion, ne pas semer un discours qui pourrait être celui de la magie.
Mais au dehors, qui croit que tout va en effet pour le mieux dans la vallée de la Fensch? Pas Lionel Buriello, en tout cas, secrétaire général CGT chez ArcelorMittal.
Comment il peut estimer que l'activité se développe alors que la direction a pour projet de supprimer 300 emplois à l'horizon 2020, quoi? Tout ça, c'est une grande mascarade, quoi.
La CGT, Sud, Force Ouvrière, ces syndicats-là ont boycotté la visite, mais sans organiser de véritable esclandre. Les gens ici sont désabusés, explique-t-on. François Hollande a tué l'espoir. Sa visite express et très encadrée n'aura pas ici convaincu tout le monde.
Louise Baudet, envoyée spéciale à Florange. La colère des salariés d'ITélé n'a rien changé. Jean-Marc Morandini a bien pris l'antenne ce soir à 18h pour une émission consacrée aux médias. L'écrasante majorité des journalistes de la chaîne Info s'était pourtant mise en grève pour dénoncer l'arrivée de l'animateur. Morandini, rappelons-le, est mis en examen pour corruption de mineurs aggravée dans une affaire de casting douteux pour une web-série érotique. L'affaire Morandini est aussi le symptôme d'un malaise plus profond à ITélé depuis l'arrivée de Vincent Bolloré à la tête du groupe Canal+. C'est un reportage d'Emmanuel Grabé.
Pas de cap clair, plus de direction de la rédaction et des moyens qui fondent. À vue d'œil, rien à voir avec le discours tenu par Vincent Bolloré lors de son arrivée à la tête de la chaîne. Antoine Janton est le président de la Société des journalistes d'ITélé.
Vincent Bolloré est venu nous voir au mois de septembre 2015 en nous disant que le groupe allait investir dans la chaîne. Et puis quelques mois plus tard, il nous a demandé de faire des économies compte tenu des résultats de la chaîne. Cela dit, en septembre 2015, la chaîne perdait déjà de l'argent. Donc c'est un discours qu'on a du mal à comprendre. On a perdu 50 postes au mois de juin, alors que Jean-Marc Morandini va travailler avec une équipe de 6 personnes dédié à son émission pour une heure d'antenne.
Inacceptable pour le journaliste Milan Poyer, représentant du syndicat Plus Libre, surtout à un moment où l'actu qui fait la une des médias du monde entier est sacrifié.
Quand on ne va pas à Mossoul, quand on ne va pas forcément aux États-Unis, mais qu'on va recruter 6 personnes pour Morandini, ça donne un visage de ce que veut être l'information dans le futur projet CNews qui nous est vaguement dessiné aujourd'hui. Ça va aussi sur une certaine idée de l'information, de ce que c'est une rédaction indépendante, libre de ses choix par rapport aux actionnaires principaux, pour informer librement et en toute indépendance.
Indépendance face aux actionnaires normalement garantis par la direction de la rédaction, eh bien la digue a sauté ce matin. Le directeur adjoint Alexandre Iffy, un pilier d'ITélé depuis sa création en 99, a annoncé son départ lors de l'AG. Il assurait l'intérim depuis le départ du directeur de la rédaction, Guillaume Zeller, c'était en août dernier.
Emmanuel Grabé, une nouvelle affaire de violence en milieu scolaire en région parisienne. La proviseure d'un lycée de Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis, a été agressée ce matin devant son établissement par un groupe de plusieurs dizaines d'individus. Elle a reçu des coups. et elle a été transportée à l'hôpital pour des examens. C'est le troisième épisode de violence en une dizaine de jours au lycée Hélène Boucher de Tremblay en France. On termine avec la météo. Demain, nuageuse dans l'ensemble, à l'exception du sud-est où le soleil s'imposera. Il pleuvra faiblement sur le quart nord-ouest. Cette perturbation avancera vers l'est en cours de journée. Température maximale de 13 à 17 degrés sous les nuages, 18 à 22 sous le soleil au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Brice Garcia.